J'ai le plaisir d'être en compagnie de notre invité, Dr Yves Lamontagne. Bonjour, Dr Lamontagne.
Oui, bonjour.
Bienvenue à notre émission Folie douce et merci de nous recevoir.
Merci à vous.
C'est un spécial. On n'est pas en studio, mais on est vraiment bien reçu. Merci beaucoup de votre part. On voulait justement vous avoir parce que vous êtes quelqu'un qui a vécu pas mal de choses au Québec, pas mal de choses en rapport avec la santé mentale. Vous êtes psychiatre de formation. Vous avez fait votre liste de... Votre CV est très impressionnant. Vous avez fait une vie vraiment bien remplie qui n'est pas finie. Loin de là, vous faites encore des conférences, puis vous pouvez faire, faire bénéficier les gens de votre expérience. En début, en fait, vous avez beaucoup été associé, disons, à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous avez même été le président directeur général du Collège des médecins, en plus d'être le président de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et plusieurs organismes ont été fondés aussi avec votre initiative. Mais j'aimerais juste, comme peut-être ensemble, de définir ce que c'est la psychiatrie. Tu sais, des fois, on entend ça, la psychiatrie, mais c'est quoi en réalité la psychiatrie? C'est une vaste question, mais comment vous la voyez?
Moi, je vous dirais que je vais placer d'autrement. Comment je suis venu à la psychiatrie?
OK.
Moi, apparemment, j'avais des dons pour faire de la chirurgie avec mes mains, mais je trouvais qu'une fois que tu as fait un appendicite, tu en as fait 1000, c'est la même affaire. Alors qu'en psychiatrie, chaque cas est différent et l'ensemble de la psychiatrie amène à aider, en tout cas, quelqu'un qui est curieux comme moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en psychiatrie, idéalement, vous avez besoin de la sociologie, vous avez besoin de l'anthropologie, vous avez besoin de l'étude même chez les animaux, vous avez besoin même de la musicothérapie, vous avez différentes façons d'intervenir avec un patient. Moi, je suis spécialiste en thérapie comportementale et cognitive. Donc, vous voyez, c'est complètement ouvert et ça amène, au fond, à essayer de développer des instruments qui vont jouer dans tous ces secteurs-là. Et c'est pour ça qu'au centre de recherche, entre autres, moi, j'avais prôné, j'appelais ça le biopsychosocial. Et je disais toujours à mes étudiants, le malade, il y a un côté biologique. Ça, c'est la pharmacologie. Il y a un côté psychologique. Donc, on a développé également des techniques psychologiques, exemple de relaxation, de thérapie comportementale. Puis, il y a des aspects sociaux. Et je leur disais tout le temps, vous avez beau traiter une madame qui fait une dépression profonde avec la meilleure des médicaments, avec la meilleure psychothérapie, mais vous l'envoyez vivre dans un ghetto où son mari l'a bas une fois par semaine, vous allez la traiter longtemps. Donc, vous voyez, biopsychosocial. Mm-hmm. Et souvent, je le dis, c'est comme le traitement de la grippe. Hein? Prenez beaucoup d'eau, prenez des médicaments, puis reposez-vous. Biopsychosocial.
Ouais.
Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vois et que je voyais la psychiatrie. Il n'y a pas un traitement unique. Puis en psychiatrie, je dirais comme en médecine, il n'y a pas de vérité. Quelqu'un qui a la vérité, là, je dis, il faudrait le trouver, mais il n'y en a pas de vérité.
Dans le fond, vous êtes toujours un peu en train de confronter un peu vos, de dire comment on peut faire mieux.
Exact.
C'est ça, on veut toujours s'améliorer.
Tout à fait.
Mais est-ce que c'était clair quand vous avez étudié en médecine, parce que c'est ça, les médecins qui deviennent un spécialiste, dans le fond, choisissent à un moment donné une branche, puis c'est pas toujours clair. Est-ce que ça a été clair et net que c'était la psychiatrie, et puis ça a été rapide dans votre choix?
Ben, il faut dire, oui, c'était rapide parce que, probablement, j'ai été marqué par ça. Il faut vous dire que mon père était assistant curateur public pour la province.
Okay.
Donc, il faisait affaire avec la psychiatrie beaucoup,
ouais.
Avec Louis H. Lafontaine beaucoup. Donc, à 16 ans, j'ai pu avoir un job d'été à Louis H. Lafontaine comme préposé aux malades. Et j'étais très chanceux parce qu'il ne prenait pas personne en bas de 21 ans à ce moment-là.
Vous en avez vu des
Mais
cas.
Mais évidemment, mon père étant assistant curateur, ça aidait. Et en plus, on avait une cousine qui était sœur de la Providence à Saint-Jean-de-Dieu.
Ouais.
Donc, quand j'ai vécu là-dedans pendant un été de temps, je regardais les malades, etc., ben moi, je me demandais toujours comment ça peut se passer dans leur tête. Et au fond, à la fin de mes études de médecine, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en psychiatrie. Au fond, j'aurais pu me dire, je vais aller en neurologie pour la tête, mais la psychiatrie m'intéressait davantage à cause des variables que je vous disais tantôt.
C'est ça.
Ça ouvrait un champ d'action beaucoup plus grand que si c'était juste le cerveau avec la neurologie.
Ouais, exactement.
Alors, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en psychiatrie.
Et vous l'avez jamais regretté? Ça a été une carrière?
Non, je comprends, j'ai jamais regretté.
Si vous êtes à la retraite, je pense, comme psychiatre, ou est-ce que vous pratiquez encore?
Je fais pas de psychiatrie maintenant. Non, j'ai lâché après 25 ans, je pense que j'avais donné.
C'est ça.
Puis, d'autant plus que il faudrait que je me recycle parce que j'ai été quand même 12 ans président du Collège des médecins.
Ouais.
Donc, après tout ce temps-là, je ne pourrais pas retourner à la clinique sans passer par un stage de perfectionnement.
Ouais.
Au niveau des psychothérapies, je pense que je suis encore capable. Au niveau de la médication, depuis 12 ans, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Ce que je ne connais plus maintenant.
Quelle sorte de portrait vous pouvez tracer? Parce que vous avez été psychiatre, je pense, à partir des années 70. Vous avez commencé.
Oui.
Écoute, depuis 70 jusqu'aux années 2000, au moment où on se parle.
En fait, j'ai arrêté en 98. C'est là que j'ai été élu président.
Mais quand même, ça a été une période énorme en termes de changement.
Oui.
Comment vous pouvez brosser le tableau? T'sais, c'est peut-être une grande question, mais est-ce que ça. Parce que en 70, qu'on était loin de la déstigmatisation et tout ça là, aussi.
Oui,
là.
Oui, je vous dirais deux choses. Ce qui m'a amené à voir les changements, puis même à en faire des changements, c'est quand je suis revenu d'Angleterre en 1972, moi j'avais été me chercher ma spécialité en thérapie comportementale avec le docteur Isaac Marks, qui était le pape de la behavior therapy. Et donc, j'arrivais avec une nouvelle technique. J'étais le premier psychiatre canadien à revenir avec ça.
Mm-hmm.
Donc, j'amenais un nouveau champ d'activité avec la thérapie comportementale. Deuxième des choses, c'est que je m'apercevais que du côté francophone versus le côté anglophone, on était moins développé en recherche. Le Douglas était beaucoup développé, le Allen Memorial était développé, puis nous autres, du côté francophone, on traînait de la patte.
Mm.
Alors, c'est là que je suis revenu comme chercheur au centre de recherche de Louis H. Et après, je suis devenu directeur du centre. Et c'est là que j'ai créé la Fondation des maladies mentales, en 80. Et en 80, quand je l'ai créé, je me suis dit, c'est justement, si les Anglais réussissent, je vois pourquoi nous autres, on ne réussirait pas. Premier but de la Fondation, justement, démystifier les maladies mentales. Deuxième, augmenter la recherche clinique, donc avec des patients. Et troisième, le but de bâtir un centre de recherche qui est devenu le centre de recherche Fernand Séguin.
Qui a une réputation mondiale.
Oui, oui. Puis écoutez, à l'époque, moi, j'avais à peu près 16 chercheurs, puis ils sont rendus au-dessus de 70 maintenant.
Oui.
Donc, vous voyez le développement qui s'est amené. Au niveau des changements dans l'esprit des gens, bien, vous avez tout à fait raison. Il y avait encore des tabous. Quand j'ai créé la Fondation en 80, il n'y a pas personne qui venait sur mon conseil d'administration. Il me disait, toi, de cœur à mon temps, que j'ai personne dans ma famille qui a une maladie mentale, mais si je vais pour votre affaire, ils vont penser que j'ai une maladie mentale, puis c'est pas bon pour mon PR, mes relations publiques.
C'était honteux, là, c'est ça.
Ou je me retournais de bord, puis là, il y a quelqu'un que je savais, on m'avait dit que t'es l'homme d'affaires. Alors moi, j'arrivais là, tu sais, en poussant pas. Et là, on me disait, mais docteur Lamontagne, peut-être que vous savez pas, mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une maladie mentale, mais personne ne le sait, puis j'irai pas non plus, parce que si ça se sait, ça sera pas bon pour mes relations publiques.
C'est incroyable.
Donc, vous voyez, j'ai commencé ça avec des chums, finalement, des amis.
Oui.
Et avec deux gens du centre de recherche, mon adjoint administratif pour s'occuper de la gestion, puis Richard Boyer, sociologue. Donc, à nous trois, c'est là qu'on a créé la Fondation des maladies mentales. Et les premiers membres qui sont venus sur le conseil, bien évidemment, c'était pas des présidents de compagnie, j'ai pas besoin de vous dire, c'était déjà des ressources humaines de telle compagnie, des amis qu'on connaissait.
Ouais.
Puis tranquillement, quand on s'est développé, ben là, j'ai eu du gros monde, là. J'ai eu déjà un président de Belge, j'ai eu un président de Gaz Métro. Là, ça marchait, là.
Qu'est-ce qui a été pouvez-vous mettre le doigt sur un moment ou une période où ça a comme changé, tu sais, où les gens ont comme dit, ben oui, c'était tabou, mais on sentait qu'il y avait un avancement. Est-ce qu'on peut, tu sais, on parlait des années 80, mais...
Ouais, moi, je vous dirais, je vais remettre ça sur le dos de la Fondation.
Ouais.
Parce que le premier but étant la démystification, on s'est beaucoup impliqué dans les médias, avec les maladies mentales, les gens, vous savez, une fois, quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un, ils apprennent.
Mm-hmm.
Mais encore faut-il leur enseigner, puis il faut aller à la bonne place pour leur enseigner.
Il faut leur dire la bonne façon aussi, c'est ça.
Alors moi, j'ai beaucoup poussé sur les médias là-dessus, pour qu'on passe dans les médias, pour faire de l'enseignement, de la thérapie comportementale pour le grand public, puis là, on allait chercher un bassin de population beaucoup plus grand.
Ouais.
Et on était très... appelé, si vous voulez, à ce moment-là, à faire de l'enseignement dans les médias. Alors, autant moi, j'en faisais, autant que mes chercheurs en faisaient aussi. Et donc, pour moi, c'était important de jouer sur cet aspect-là.
Peut-être que ça faisait ça faisait peut-être l'affaire des médias, parce que, tu sais, on parle de folie, il y a toujours une petite curiosité, il y a toujours, tu sais, ça mousse les codes d'écoute, ou en tout cas, ça mousse l'intérêt. Hein, à quelque part, c'est juste de le faire de la bonne façon, puis de pas faire passer les gens pour plus fous qu'ils sont, en fait.
Puis de façon étonnante, quand vous dites ça, il y a eu comme une période au début où ça marchait très fort, notre affaire. Puis après ça, il y a eu comme une baisse.
Genre fin 80 peut-être, ou 90,
moi, je vous dirais 90.
Il y avait comme un creux.
Là, vous voyez, récemment,
ouais.
Je dirais, mettons, dans les 5 dernières années,
ouais.
Ça recommence à monter.
Exactement.
Avec la dépression, avec le suicide, avec l'anxiété, burn-out.
Ouais.
Et là, que vous comprenez, avec tous les trucs qui se passent aux États-Unis, où les jeunes tirent dans les écoles, puis les gens tirent à gauche, à droite, ben... Puis même ici, hein, je pense,
oui.
Entre autres, l'itinérant là, qui s'était fait tirer par la police.
Exactement.
Alors, vous voyez, c'est un malade, ça. Donc, avec ces phénomènes-là qui se passent, ça fait en sorte que le besoin d'éducation, puis ça démystifie en même temps les maladies mentales. Dire, mais ces gens-là sont malades, puis il faudrait les traiter comme du monde.
Oui.
Alors, ça, je pense qu'il y a une remontée actuellement.
Oui. Docteur Lamontagne, donc, on vous remercie d'être avec nous. C'est fort intéressant de voir aussi votre expérience de plusieurs dizaines d'années en santé mentale. Un point sur, justement, l'avant, en fait, les relations entre le milieu communautaire, le monde médical, le gouvernement, ça a toujours été un peu à couteau tiré, surtout dans les années 80. On se disait, ben on a besoin de... Il y a eu la désinstitutionnalisation, les gens qui sont allés dans la société, coupure de budget, pas nécessairement les ressources. Comment, comme psychiatre ou comme président du Collège des médecins, comment vous voyez ça à l'époque? Là, je pense que c'est un petit peu mieux. Je pense qu'on essaie de réparer, on essaie de donner un peu plus d'argent, de ressources pour les ressources communautaires,
oui.
Mais l'espèce d'affrontement qu'il y avait, le voyez-vous comme ça?
Oui. Écoutez, l'argent, le problème, c'est que l'argent n'a jamais suivi le malade. Alors ça, on disait ça dans le
temps. On a coupé des lits,
on a sorti des patients des hôpitaux,
ouais.
Puis on les a laissés dans la rue. Alors, moi j'ai toujours dit, c'est pas nécessairement, puis encore maintenant, dans le système de santé, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question d'organisation. Et ça nous manque,
ouais.
D'avoir une organisation qui est solide. Avec les groupes communautaires, pendant un grand bout de temps, moi le premier, je vais vous avouer, parce que ça jouait des deux côtés, ça.
Ouais.
Avec les associations de défense du malade, ben, je pense que des fois, à l'époque, ils charriaient. Moi, je me suis déjà pris avec un représentant d'une association à la télévision, où l'intervieweuse donnait comme exemple un patient qui se promenait nu-pied à moins 20 en bas de zéro sur la rue Saint-Denis. Puis moi, je disais, ça n'a pas de bon sens, il faut le prendre puis l'amener à l'hôpital. Mm. Et que le gars de l'association, non, c'est la liberté. Ben moi, j'ai dit, écoute, c'est fini, les deux jambes coupées, là, c'est bien beau la liberté, mais à un moment donné...
Quand c'est urgent, il y a quelque chose.
Là-dessus, là, ouais. On s'accrochait.
C'est quoi, ça, exactement, mais il y a eu beaucoup.
Mais là, c'est mieux. Là.
C'est mieux, tu sais, je me souviens, moi, dans nos débuts, à Folie Douce, c'était ça, les gars, c'était comme un peu l'hôpital ou les médecins,
ouais.
Ou le monde hospitalier contre le monde communautaire.
En plein ça.
Puis c'est pas
très
correct,
vrai.
Parce que ça aide
non.
Pas la personne.
Faut travailler ensemble.
Exactement.
Ça s'est beaucoup amélioré avec la création, entre autres, des associations de parents et amis du malade mental.
Ouais.
Ça, c'est une autre histoire, puis ça s'est beaucoup amélioré, la collaboration entre le milieu médical et ces associations-là.
Ouais. C'est super intéressant. J'aimerais que vous restiez avec nous pour l'émission, parce que c'est vraiment... On va faire une deuxième partie. On a parlé un peu de votre carrière, tout ça. On va se tourner vers l'avenir. On va se tourner vers le présent et l'avenir dans la deuxième partie. Puis c'est fort intéressant de vous avoir avec nous, Dr Yves Lamontagne.
Ça fait plaisir.
Demeurez des nôtres à Folie Douce.